Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre, disait Pascal. Si je ne vous propose pas ce matin de retourner dans votre chambre, je vous invite à commencer une balade dans notre région. Je vous propose d'apprendre à nous émerveiller ensemble de ce qu'il y a près de chez nous, de nous balader en Occitanie, de découvrir certains de ces sites exceptionnels, leur histoire chrétienne passée et présente, et ceux qui y habitent. Cap aujourd'hui sur le Cosméjan. Un plateau en Lozère, entre terre et ciel, un désert, diront certains, puisque là-bas, on ne compte qu'environ un habitant au kilomètre carré, un désert, qui est en fait une leçon de vie. Ces sites exceptionnels d'Occitanie, le Cosméjan, première émission de ce qu'on va essayer d'être une série. En ces émissions du mardi matin, traditionnellement dévolues, vous l'aurez peut-être remarqué, chers auditeurs, à mettre en valeur des réalités de la vie chrétienne de notre région, de l'Occitanie. Mais comme la vie de l'Église se tarit, il faut de l'inventivité. Et aujourd'hui, on va commencer cette série. Alors nous sommes avec deux invités qui seront par téléphone et on comprend pourquoi, parce qu'ils sont un petit peu loin. Claude Gras, vous êtes prêtre du diocèse de Mende et curé modérateur de la paroisse Saint-Joseph de Florac. Bonjour.
Bonjour.
Sylviane Navec, vous êtes vous éleveuse sur le Cosméjan. Bonjour.
C'est cela, bonjour.
Alors, merci beaucoup d'avoir répondu présent à mon invitation. On va donc avec vous se balader sur le Cos. Alors, c'est un petit défi de se balader en radio et en même temps, l'imagination va galoper. On parlera un peu de l'histoire religieuse de ce lieu, de ses réalités pastorales du moment. Et puis, on fera un peu plus connaissance avec vous, Sylvaine Navect, et avec votre mari, puisque vous êtes un peu nos chrétiens témoins du jour. Alors, j'ai envie de commencer avec vous, Sylvaine Navect, en nous demandant de nous décrire. Vous allez un peu nous servir de guide quand vous ouvrez la porte de chez vous et que vous allez à la rencontre de vos 300 et quelques brebis sur vos 500 hectares de propriété agricole, si j'ai bien compris, qu'est-ce que vous voyez ?
Alors, nous voyons des petites collines boisées et puis surtout des grandes étendues d'herbes un peu maigres, un peu sèches, parfois vertes au printemps, et puis un grand ciel. Souvent bleu, parfois gris, comme aujourd'hui.
Alors, il faut dire que le plateau du Cosméjan, donc, fait partie, c'est en Lozère, fait partie des grands causses. C'est un des causses. On reviendra peut-être sur ce que c'est. C'est 34 000 hectares, donc une superficie de 350 km². C'est un grand plateau, en fait, comme un grand désert. Même question pour vous, Claude Gras, quand vous montez de votre paroisse de Florac, enfin, en tout cas, de votre cure de Florac pour aller sur le plateau du Causse. Décrivez-nous peut-être un peu la route. Il faut grimper, c'est ça ?
Alors, tout à fait, oui, parce que Florac est dans une vallée très encaissée, donc à 550 mètres, et nous devons faire une grimpette de 450 mètres environ pour se retrouver sur le Cosméjan. Et ce Cos, évidemment, c'est un contraste aussi de nature, puisque Florac, nous avons quelques arbres et tout, et comme vient de le dire Sylviane, on se retrouve un petit peu dans un désert, parfois vers le printemps, mais vraiment magnifique, c'est un lieu vraiment de repos et de calme. Je flâne beaucoup quand je traverse le Cos pour me laisser inviter à cette méditation, cette paix qu'il y a dans ce parcours, c'est vraiment magnifique, oui.
Alors il faut quand même dire que déjà en Lozère, il n'y a pas beaucoup d'habitants hein, par rapport à d'autres régions de la France. Je crois qu'il y a une blague qui circule en disant que tous les habitants de la Lozère ne remplissent pas le Stade de France. Vous avez à peu près 70 000 habitants. Alors si vous, le curé quelque part en partie du Cosméjan dit que c'est un désert, c'est que ça doit vraiment être un. C'est donc un site qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Depuis 2011, il y a 13 communes quand même, presque 600 habitants. C'est bien ça, hein, Claude Gras, à peu près 600 habitants ?
Environ, oui.
Donc 600 habitants. Alors il y a différentes choses, on ne va pas tout décrire du Cos, hein, on pourrait parler de cette espèce de lande qui a quelque chose un peu des landes écossaises avec les murs de pierre sèche qu'on peut voir, les herbes qui s'étendent presque à l'infini. Il y a aussi les fameuses maisons Cosnard Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ces maisons Cosnard? Je crois même qu'il y en a une en fait qui est un peu pardon, comme une maison de témoin, qui est un écomusée du Causse. La ferme Cosnard, à quoi ça ressemble, Claude Grain?
Oui, alors peut-être avant de parler de maison, voir le Méjean. Méjean, ça a donné Méjo dans le langage local. Méjo, ça veut dire le milieu. Donc, il est important de situer le Causse Méjean dans le massif central. Donc, c'est, je dirais, un plateau de 1000 mètres, un plateau calcaire à 1000 mètres d'altitude, situé entre le Causse Sauveterre et le Causse Noir. Donc, c'est une île qui est entourée par trois vallées, la vallée des Gorges du Tarn, la vallée de la Jonte et la vallée du Tarnon. Voilà, donc effectivement, sur ce lieu, il y a les maisons Cosnard. Les maisons Cosnard, c'est une architecture très particulière, en ce sens que il n'y a pas de charpente bois. Vraiment, dans l'authentique style Cosnard, ce sont des grandes dalles de lauzes qui sont posées sur une voûte, un petit peu comme les églises. Vous voyez, c'est une architecture vraiment particulière et qui est très très belle, effectivement. Et ce style-là est quand même bien en vue dans certains petits villages du Causse Méjean, mais pas que. Il y a aussi sur le Causse Sauveterre, il y a aussi le parc avec le conseil général de Lozère, qui a acheté une ferme boisée qui est pure style Cosnard et qui a été mise en valeur pour le tourisme en particulier. Et donc la ferme d'autrefois aussi sur le Causse Méjean, à Elsass, c'est une famille, Armand Pralon, qui avait fondé cette maison pour garder mémoire du style de vie du Causse. Il y avait même eu un film qui s'appelle Le Méjo, qui reprend un petit peu toute cette vie d'autrefois et qui a été tournée en particulier dans cette maison Cosnard.
Alors, vous avez parlé de la situation géographique et donc de ces maisons hein, qui semblent, comment dire, comme incrustées dans le paysage. On peut dire aussi que le plateau du Causse-Méjean, on continue un peu la page touristique au début de cette émission, ça n'est pas si plat que ça, en fait. Il y a aussi, comment dire, des dépressions, une espèce de chaos dolomitique, ai-je compris. C'est
Oui.
un paysage aussi accidenté.
Alors, il y a comme disait un petit peu Sylviane, des petites collines. C'est pas très haut quand même. Hein. L'altitude moyenne est de 1000 mètres. Je ne pense pas que ça dépasse les 1100 mètres. Hein. Et alors, oui, il y a des chaos dolomitiques, notamment sur Nîmes-le-Vieux, qui est quelque chose de très spécial à voir, évidemment, qui donne sur la vallée de Vébron, donc la vallée du Tarnon.
Alors le plus haut sommet c'est le mont Gargaud, vous avez dit c'est un plateau à peu près à 1000 mètres d'altitude qui est à 1247. Il y a une autre réalité, on va pas tout dire hein, parce qu'il faut que les auditeurs aillent se balader et que l'imagination travaille. Il y a aussi ce qu'on appelle les chevaux Prévalski. Les chevaux Prévalski, si j'ai bien compris, ont été réintroduits il n'y a pas très longtemps. Ce sont des chevaux préhistoriques, alors on va se tourner vers l'éleveuse. Les chevaux Prévalski, vous pourriez présenter aux auditeurs rapidement ce que c'est, Sylvain Nonavecht?
Alors, en fait, oui, c'est une race de chevaux qui a été découverte au début du siècle par un militaire qui lui a donné son nom. On les appelle maintenant les chevaux de Prévalski. Et puis, ils sont, je crois, originaires de Mongolie. Ils avaient été beaucoup chassés. On pensait qu'ils avaient disparu, mais en fait, non, il y a des spécimens qui ont été redécouverts. Et puis, dans l'idée de protéger la race et d'augmenter un peu le nombre d'individus, il y en a une dizaine qui ont été réintroduits ici sur le Causse.
Et c'est important, c'est-à-dire ça donne comment dire une atmosphère, ça contribue à l'atmosphère un peu de ce lieu qui paraît un peu éternel.
Oh ben. Je dirais que c'est un peu la cerise sur le gâteau, mais oui, je pense que le Causse n'a pas forcément besoin des chevaux pour avoir ce côté un peu steppique, un peu extrême. Disons, de par sa géographie et de par son climat, c'est déjà en soi quelque chose qui est un peu exotique.
Alors il y a donc 22 chevaux qui ont été réintroduits, c'était en 2004 et 2005, et de fait ils venaient d'un parc national. Je vous ferai grâce du nom de ce parc, parce que en effet il vient de l'ouest de la Mongolie. On va finir avec deux réalités. L'Avène Armand, qui est donc, si j'ai bien compris, une grotte assez extraordinaire en ce lieu. Et puis après, vous nous parlerez d'un fabricant d'instruments de musique tout à fait étonnant, qui dit aussi quelque chose de ce lieu, avant qu'on se plonge dans la vie chrétienne passée et présente. Claude Gras, l'Avène Armand, Sylvie Navecht, l'Avène Armand, vous y êtes allé, à quoi ça ressemble? C'est quoi? C'est la fierté locale c'est des grottes assez extraordinaires, c'est ça?
Oui, c'est effectivement des grottes assez extraordinaires avec des stalactites et des stalagmites magnifiques. Et puis, c'est une grotte qui est très grande en volume. Moi, j'ai visité d'autres grottes, mais qui sont peut-être plus des boyaux, etc. Là, on se retrouve vraiment plongé au cœur du monde souterrain. Et on est aussi tout à fait impressionné de savoir qu'elle a été découverte au début du siècle avec des moyens technologiques d'époque, c'est-à-dire des torches et puis des échelles de cordes. C'est actuellement, depuis qu'elle a été découverte, cette grotte a été aménagée pour les visites. Et puis on peut dire que c'est un des hauts lieux touristiques du Cosmégen.
Vous vouliez finir, Claude Gras, sur cette balade sur le Causse, en nous parlant d'un homme, c'est Frédéric Bousquet, c'est vous qui avez attiré mon attention, un musicien qui cultive, on va dire, un art de la musique bien particulier et qui parle aussi de ce lieu.
Oui, alors Frédéric Bousquet, c'est un très grand musicien, il sort du conservatoire de Toulouse, il a fait des études de musicologie, c'est aussi un chercheur. Il habite au Temple. Le Temple, c'est un tout petit village, un tout petit hameau sur la bordure du Causse qui domine la vallée de Quézac. Alors ce Frédéric, il est spécialiste mondial de l'euphone. Alors l'euphone, c'est un instrument de musique qui est très particulier. On pourrait l'apparenter à un orgue, sauf que les touches sont en cristal. Et de fait, pour jouer de cet instrument, il mouille ses doigts avec de l'eau et puis il fait glisser ses doigts sur cette tige cristalline qui donne un son vraiment cristallin, quoi. Comme quand on passe sur un verre, quand on a mouillé son doigt, on passe sur un verre, ça fait un son. Et là, il peut jouer quasiment n'importe quoi. Tous les styles de musique, classique, contemporain. Et puis l'autre particularité, c'est comme je disais, il est chercheur. Quelquefois, il prend il fait des prises de son sur le Causse à travers la faune, tout ce qu'il entend, tous les bruits de la nature, y compris du sous-sol, dans l'Avène Armand aussi, les gouttes qui tombent. Et il remixe tout ça avec du numérique et puis il fait des créations musicales absolument fantastiques. Oui, c'est vraiment un compositeur, musicien, inventeur d'instruments de musique, puisqu'il fabrique les euphones et aussi il produit... Voilà, c'est ce genre d'instrument, quoi.
Voilà, ce plateau du Cosmégen. Alors, j'ai pas trouvé d'extrait musical de Frédéric Bousquet, pardon pour les auditeurs. En tout cas, merci pour ce début de balade sur ce plateau à découvrir entre terre et ciel, donc en Lozère. Le Cosmégen, on fait une courte pause musicale et on vous retrouve. Thank you.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Ces sites exceptionnels d'Occitanie, le Cosmejan, c'est donc pour rappel le thème de l'émission Vivante Église en ce mardi. Pour ceux qui nous rejoindraient, ce jour traditionnellement dévolu à des coups de zoom sur la vie chrétienne de notre région, la vie de l'Église, comme le reste de notre vie sociale, se tarit un petit peu. On trouve donc des idées et on va commencer une série de balades. Et on commence par ce lieu splendide à découvrir, qu'on vous fait découvrir presque par l'imagination en ce mardi matin, en Lozère, ce plateau entre terre et ciel, pour ceux qui nous rejoindraient, de 34 000 hectares, une grande lande ou presque qui a des airs d'Irlande ou d'Écosse. Et nous sommes avec Claude Grain, qui est prêtre du diocèse de Mende et curé modérateur de la paroisse Saint-Joseph de Florac, et Sylviane Navect, qui est éleveuse sur le Cosmejan. Alors on va dans cette partie parler de l'histoire de la vie chrétienne d'hier et d'aujourd'hui. Alors vous m'avez mis en garde, et je le dis pour vous mettre tout à fait à l'aise, Claude Grain, en disant que vous, ce que vous préfériez, c'était les hommes d'aujourd'hui, c'était votre spécialité, vous n'étiez pas un historien. On s'est dit quand même qu'on allait essayer une toute petite balade historique pour montrer que la vie chrétienne n'a pas commencé après-guerre en ce beau lieu. Ce qui nous est venu, ce qu'on s'est dit, c'est peut-être dire un mot donc du tout début, de la christianisation donc de cette région de la France. La Lozère a été christianisée au 4e siècle, c'est ça ? Venant par à partir du nord avec l'évêque Saint-Privat, si j'ai bien compris.
Oui, alors même un petit peu avant, je dirais au 3e siècle, là, avec les premiers chrétiens qui venaient depuis Nîmes, qui ont remonté toutes les vallées, puis qui se sont installés. Donc c'était dans le 3e siècle, oui.
Voilà, c'est ça. De Nîmes, c'était Saint-Baudy, et venant du nord, c'était donc l'évêque de Saint-Privat. Donc le lieu s'est christianisé, j'allais dire, cas avec les épisodes que l'on connaît, que ce soit les Francs, les Visigoths et autres. Il y a peut-être une autre période sur laquelle on peut s'arrêter, même s'il n'y a pas, il n'y a jamais eu d'abbaye sur le Cosmejan, comme il y en a sur le plateau de l'Aubrac, ce lieu qui lui ressemble un petit peu. Néanmoins, en Lozère, on va dire la grande époque du début du monachisme cistercien, c'est donc 12e siècle, c'est ça, 11e, 12e siècle. Il y en a des traces un peu en Lozère quand même ?
Ah oui, il y a quand même des traces en Lozère, parce que Saint-Privat, il a quand même créé des abbayes, notamment près de Marvejols, au Monastier, et puis en d'autres lieux, ici près de Florac aussi, à Bédouès, un tout petit village tout près de Florac, il y avait eu une abbaye aussi cistercienne. Et puis actuellement, donc il subsiste une abbaye, mais qui est plus sur les bords de la Lozère, sur l'est de la Lozère, en frontière avec l'Ardèche, et qui est d'ailleurs située un petit peu en Ardèche. C'est l'abbaye Notre-Dame-des-Neiges, donc un site cistercien très connu puisque dépend de l'abbaye d'Aiguebelle, entre
Alors,
autres.
Claude Grain, vous n'êtes pas devin, mais pourquoi il n'y a jamais eu d'abbaye sur le plateau ? Est-ce à dire que le climat était trop rude ? Peut-être certains ont en tête cette histoire à Aubrac, sur le plateau de l'Aubrac, de ces moines qui se sont installés, sauf erreur de ma part, au XIIe ou XIIIe siècle, et puis qui ont déboisé le plateau. Ce plateau n'avait pas besoin d'être déboisé, le climat était trop rude. Quelle serait votre réponse ?
Oui, alors il faut imaginer que le climat est très très rude, et en plus, un facteur qui est quand même marquant, c'est qu'il n'y a pas d'eau de ruissellement sur le plateau du Cosmejan. Donc il y avait ce qu'on appelait autrefois des lavognes, donc pour abreuver les animaux en particulier, mais l'eau est quand même un facteur très important pour que une population s'installe quelque part. Alors oui, c'était un lieu très 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 rude. Je vous laisse imaginer un petit peu les gens, ce qu'ils ont dû souffrir pour survivre, parce que pas d'eau, il faut récolter l'eau des pluies, c'est ce qui se faisait autrefois. Donc c'était des vies un petit peu archaïques. Alors c'est peut-être la raison pour laquelle, il n'a jamais été très peuplé. Tout à l'heure on disait entre 500 et 600 personnes qui habitent. Je ne pense pas que par le passé il y ait eu beaucoup plus. Peut-être un peu plus parce que les familles étaient nombreuses, mais voilà, donc c'était très difficile, donc pas possible. S'il n'y a pas d'eau, la vie est difficile.
La vie est difficile, bien sûr. Alors, il y a une autre question qui vient quand on parle du Cosmégen, parce que le Cosmégen, c'est certes en Lozère, mais sauf erreur de ma part, on est au sud de la Lozère, pas très loin des Cévennes. Est-ce qu'il y a eu un épisode d'affrontement avec les protestants? C'est quelque chose de très présent local, dans votre pays. Est-ce qu'il y en a des traces sur le Cosmégen? Est-ce que le Cosmégen était, on va dire, trop éloigné là aussi pour être impacté par ces guerres de religion?
Alors, le Cosmégen a été épargné par les guerres de religion. Les protestants, disons, ils s'arrêtent à Florac. Et puis toutes les Cévennes, évidemment, hein, Cévennes gardoises, Cévennes ardéchoises et lozériennes. Donc, mais ils sont plutôt cantonnés sur le sud du département, les protestants. Alors l'histoire avec le COS, je pense pas qu'il y ait eu beaucoup de protestants sur le COS. Enfin, à mon souvenir, je pense pas. Hein. Toutefois, nous travaillons avec eux puisque la paroisse, elle est aussi vaste et nous avons des projets communs avec nos frères protestants.
Alors oui, venons-y,
évidemment.
Cette paroisse est vaste. Vous, Claude Grade, vous êtes un ordonné tardif, c'est ce que vous m'avez dit, puisque vous êtes rentré au séminaire autour de 40 ans. Comment on se retrouve curé de la paroisse Saint-Joseph de Florac et en partie du Causse? Vous êtes un enfant du pays?
Alors oui, je suis originaire du Nord Lozère, donc sur les plateaux de l'Aubrac, donc ça ne me change pas beaucoup, si vous voulez, au niveau de la... comment dire...
Vous êtes habitué
au
au
niveau
désert.
Des paysages.
Oui.
Oui. Et voilà, alors je suis originaire de l'Aubrac et effectivement, j'ai été ordonné prêtre, j'avais 45 ans, donc je dirais pas une vocation tardive, plutôt peut-être une réponse tardive à la vocation. Avant, j'étais dans le paramédical, comme podorthésiste puis orthoprothésiste, où j'ai eu la chance de travailler pendant presque 3 ans avec l'association Handicap International, notamment en Afrique et en Asie, pour fabriquer et mettre en place des ateliers de prothèses pour les amputés. Voilà.
Alors, décrivez-nous un peu votre paroisse aujourd'hui, la paroisse Saint-Joseph de Florac. Faut-il que vous fassiez beaucoup de voitures pour arriver à l'embrasser du nord au sud ou de l'est à l'ouest?
Alors, peut-être... Pour vous parler de la paroisse, il faudrait revenir à la réforme des paroisses. Notre diocèse demande, depuis 2008, il est composé de 5 paroisses, dont celle de Florac. Ce qui veut dire que 5 paroisses sur un diocèse, ça fait des territoires immenses. Et notamment, le territoire de Florac, c'est sûrement l'une des paroisses, la paroisse même la moins peuplée de parmi toutes les autres, et elle est vaste, puisque si on prend d'une extrémité à l'autre, donc la vallée française, Saint-Étienne-Vallée française, jusqu'aux vignes, donc l'autre bout des gorges du Tarn, ça doit faire à peu près, disons, 2h30 à 3 heures de route.
Claude Gras, combien de temps il vous faut pour, quand vous partez de votre cure, montre en main, vous montez dans votre voiture, pour vous rendre, aller jusque chez Sylvaine Navecte, par exemple?
Alors, chez Sylviane Navecte, encore ça va, c'est à peu près 40 minutes, mais il faut compter environ, dès qu'on sort de Florac pour célébrer les dimanches, c'est aux environs de 3 quarts d'heure à 1 heure de route aller. Hein.
Voilà, donc ça dit aussi des réalités pastorales. D'aucuns disent c'est l'hyper-rural. Je ne sais pas si c'est un qualificatif qui vous plaît trop. C'est peut-être un qualificatif un peu de sociologue ou de géographe. Alors vous, Sylvaine Navecte, avec votre mari, vous vous êtes installée donc au début des années 2000 comme éleveuse. On y reviendra parce qu'on vous fera comme un mini-portrait. Mais en tout cas, pour ce qui est de la vie chrétienne, vous faites partie aujourd'hui des paroissiens. Il n'y a plus de curé, donc on l'a compris, hein, sur le plateau, et ce probablement depuis l'avant-guerre, vous me disiez, Claude Grain. Mais aujourd'hui, des chrétiens, il y en a encore. Petite communauté. Et votre mari, alors vous allez parler un peu à sa place. Il sert un peu de bras droit, c'est ça, avec d'autres, à Claude Grain. C'est-à-dire, quand on a un curé qui habite à 1 heure, 1 heure et demie de voiture, il faut apprendre à se prendre en main, c'est ça?
Oui, on peut dire ça comme ça.
Comment ça se passe, du coup? Quelle est vous pouvez décrire un peu la responsabilité de votre mari?
C'est l'organisation des messes principalement, c'est-à-dire l'organisation de la des horaires et puis ensuite quand même un peu des chants, de qui lira, de qui sera un peu responsable de la messe ce jour-là, en plus du prêtre.
Voilà, et puis vous me disiez, il fait partie des différents conseils pastoraux de l'équipe locale d'animation pastorale. Claude Gras, à quoi ça ressemble la vie d'église d'un plateau comme celui-là? C'est quoi l'essentiel? C'est la messe, le catéchisme, les mariages?
Oui, alors il y a peu de mariages, un petit peu de catéchisme, mais moi je dirais une proximité avec les gens, quoi. C'est une grande famille. Et effectivement, la famille Navette qui est très, très impliquée au niveau de la paroisse, puisque bon, Sylviane nous aide pour tout ce qui est sépulture, préparation d'obsèques, et puis alors son mari et tout ce qui est liturgie, et puis tous les conseils. Donc nous avons besoin d'être appuyés par des laïcs compte tenu des distances. Nous ne pouvons pas tout gérer sur place si on n'est pas présent. Et eux, ils assurent ce relais. Donc ce sont des relais, en fait, pour le bien vivre et le fonctionnement de la communauté.
Voilà, c'est bien de le dire. Ils sont modestes, mais si j'ai bien compris, ils sont essentiels. Alors vous, Claude Gras, il y a deux choses sur lesquelles vous vouliez mettre un coup de zoom pour nous aider à comprendre un peu la vie chrétienne de ce haut plateau. C'est les visites que vous faites de temps en temps aux personnes isolées. Allez, on va commencer par ça, c'est-à-dire vous bloquez en fait des périodes dans votre agenda. Comment ça se passe? Comment s'est passée la dernière visite en l'occurrence?
Alors c'est ça, oui. Donc mon prédécesseur, le père Escriche, avait initié cela sur le COS en créant des petits groupes de veilleurs ou de veilleuses. Donc ce sont dans chaque village une personne qui a l'attention auprès des autres villageois et notamment des plus fragiles. Alors quand je suis arrivé sur la paroisse, j'ai repris ces choses-là à mon compte aussi. Et puis en détectant déjà toutes les personnes qui sont supposées être des veilleuses dans un coin du COS. Alors c'est pas tout le COS, c'est une partie du COS pour l'instant.
Donc la veilleuse vous attend et quand vous arrivez, qu'est-ce que vous faites pendant ces journées?
Alors la veilleuse, quand j'ai une plage horaire importante, mais il faut compter une demi-journée, voire plus, j'appelle la veilleuse de ce village-là qui doit me préparer un planning de visite, voilà. Et puis ensuite, quand je vais dans ce village, on se donne rendez-vous et puis on commence les visites. Alors, on rentre chez les gens ensemble parce que les gens, ils ont des fois besoin d'être introduits par quelqu'un. Elle m'introduit dans les maisons et puis elle sort en attendant parce qu'il y a des personnes, vous savez, qui ont envie des fois de prier, qui ont envie de se confier, qui ont envie de recevoir un sacrement. Quelquefois, je donne la communion aussi dans ces visites-là, vous voyez, c'est tout à fait discret et puis ça fait du bien aux gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se déplacent pas parmi ces personnes fragiles et ça nous assure aussi un lien avec elles.
Voilà, c'est comme une œuvre de consolation. L'autre réalité, alors elle n'est pas de votre fête, mais il y a eu comme une grande fête du pastoralisme. L'année dernière, l'été dernier, si j'ai bien compris, à laquelle était présente l'évêque. Vous pouvez nous parler de cette fête?
Alors, peut-être que Sylviane pourrait vous en parler mieux que moi, puisque je pense qu'il devait y être ce jour-là.
Alors, Sylviane, allez, introduisez-le et puis elle complétera.
Non, je crois que vous pouvez introduire parce que...
Il s'agit d'une fête de la paysannerie. Qui vise à présenter en fait l'activité des éleveurs en Lozère au grand public. Donc on a organisé ça avec plusieurs habitants du COS. Il y a des animaux qui ont été présentés. Il y a des activités artisanales qui ont été présentées. Il y a des chevaux de trait qui sont venus présenter leur travail sur le COS. Il y a eu un concours de chiens de troupeau, vraiment pour essayer de présenter de manière la plus large possible nos activités professionnelles. Et puis, pour que la fête soit complète, l'évêque est venu dire une messe le matin.
Et alors, ça fait, comment dire, quand l'évêque vient dans ce genre de fête sur le plateau, ça ne surprend personne?
Ben, ça réjouit les gens.
Ça réjouit les gens, c'est-à-dire en fait
Oui, ça
c'est.
réjouit les gens et je pense que pour lui, c'est aussi une bonne occasion de faire connaissance avec son nouveau diocèse parce que ça ne fait pas très longtemps qu'il est là. Donc, cette grande fête, c'était aussi une bonne occasion pour lui de découvrir la paysannerie sur le Causse.
Bon, et ben merci de cette balade, on va dire, chrétienne. Avant de faire plus connaissance avec vous, on peut dire aussi, comme le laisse entendre ce que vous venez de décrire, et ce qu'on a essayé donc de décrire de l'histoire chrétienne de ce lieu, que il y a une autre réalité qui dit que c'est une terre chrétienne. C'est évidemment toutes les croix que l'on peut croiser sur ce plateau, comme cet autre plateau qu'on a cité avant, le plateau de l'Aubac, toutes ces croix de dévotion, de direction, croix mémorielle, croix de mission. Voilà, c'est une belle terre, et à entendre la manière dont est accueilli l'évêque, on se doute que c'est une terre chrétienne. On va faire une deuxième pause et puis on va vous retrouver, Sylvaine, pour parler un petit peu plus de vous. Votre mari était avec l'évêque à l'assemblée plénière des évêques à Lourdes il y a peu, assemblée donc sur Laudato si, sur l'écologie. On va découvrir dans quelques instants pourquoi. Ces sites exceptionnels d'Occitanie, le Cosmégent, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église en ce mardi matin. Et pour ceux qui nous rejoindraient, nous sommes avec Claude Gras, qui est prêtre du diocèse de Mende, curé modérateur de la paroisse Saint-Joseph de Florac, et Sylvaine, Navecte, qui est éleveuse sur ce plateau du Cosmégent. Alors Sylvaine, avec votre mari Théophile, si je ne me trompe pas, vous êtes éleveuse. Donc je le disais, c'est votre exploitation, c'est donc 300 têtes de bétail, c'est ça, sur combien d'hectares déjà?
Voilà, avant de vous répondre, permettez-moi tout de suite de rectifier. Moi, je ne dis pas que j'ai une exploitation parce que j'évite d'exploiter justement la terre. Donc, je dis tout simplement que j'ai une ferme Et je ne suis pas une exploitante agricole, je suis une paysanne.
Voilà, vous avez une ferme. Très bien, précision importante qui dit déjà beaucoup de choses sur la manière dont vous essayez de vivre votre métier, et peut-être même plus qu'un métier. Mais si vous deviez présenter votre exploitation, baladez-nous un petit peu sur votre ferme, baladez-nous un petit peu à quoi ça ressemble.
Alors, on a une ferme assez classique, c'est-à-dire que on a à peu près 500 hectares au total. On a 400 sur ces 500 hectares, il y a 450 hectares de landes qui sont ici plutôt boisées. Et puis, qui ne sont pas mécanisables, c'est-à-dire qu'on garde, on clôture, c'est les brebis qui pâturent dans ces parcours. Et ensuite, on a 50 hectares de terres labourables sur lesquelles on fait le foin et les céréales qui servent à l'alimentation des brebis.
Alors, pourquoi vous avez choisi des brebis ? Expliquez-nous. À vous entendre, vous n'aviez pas trop le choix d'une certaine manière ?
Mais on a choisi une ferme où il y avait déjà des brebis. Donc, dans la continuité de ce qui était fait avant, on a continué à élever des brebis laitières.
Oui, mais vous me disiez que c'était que seuls les ruminants pouvaient vivre sur ce plateau ou être...
C'est un des animaux quand même les mieux adaptés, effectivement, parce que les sécheresses estivales peuvent être assez sévères et du coup, bon, il faut quand même des animaux assez petits pour pouvoir se faufiler partout, parce que notre partie du Causse, elle est quand même assez boisée. Donc il faut qu'ils soient assez petits pour se faufiler un peu partout et puis profiter de tout l'herbe disponible.
Mais alors ruminants, vous vouliez insister sur le fait que ça soit des ruminants. Pourquoi est-ce que c'était important à préciser ?
Parce que les ruminants, au contraire des monogastriques, c'est-à-dire comme nous, les hommes, les poules, les porcs, les ruminants, eux, ils peuvent tirer leur nourriture de terres qu'on ne peut pas cultiver. C'est-à-dire qu'il faut des ruminants, ou en tout cas des herbivores, pour tirer parti de tous ces terrains qui font la plus grande partie du Cosmégen. C'est chez nous, c'est-à-dire qu'on pourrait, nous, s'amuser à cultiver des céréales sur 50 hectares, encore que pour avoir une bonne rotation, il faut quand même produire du foin. Mais tout cela, ça représente qu'une petite partie des terres qu'on a à disposition. Donc pour utiliser les 450 autres hectares qui ne sont pas mécanisables, il faut des bêtes qui pâturent et qui peuvent ensuite produire des agneaux pour la viande ou du lait, comme c'est le cas chez nous.
Alors vous êtes installée donc au début des années 2000 avec votre mari. Vous aviez hésité, vous m'avez dit, entre la Lozère et la Suisse, compte tenu de vos affinités, enfin de vos réalités familiales à l'un comme à l'autre. Vous avez donc décidé de vous installer sur ce haut plateau. Dans quel état d'esprit vous êtes arrivé, vous précisez que vous êtes une paysanne et que vous avez une ferme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi c'est important de le préciser ?
Parce qu'on est arrivé dans l'état d'esprit de travailler le plus possible avec la nature et pas contre la nature. Ça ne veut pas dire qu'on réussisse toujours, mais c'est ce vers quoi on tend.
Est-ce que vous pouvez prendre des exemples ?
Eh bien, je dirais que déjà en arrivant, on n'a pas trop hésité à baisser le troupeau, baisser le nombre de têtes pour devoir acheter moins. On est passé en bio au bout de quelques années pour éviter de... Enfin, parce qu'on voulait plus mettre d'engrais. Et tout ça, ça présuppose aussi qu'on produise moins. Donc on accepte aussi d'avoir des lactations moyennes par brebis qui sont bien inférieures à ce que produisent la plupart des gens qui sont en brebis laitière par ici.
Et vos produits, vous les vendez sur le plateau ? C'est Claude Gras qui repart ça avec ça dans le coffre pour aller vendre sur les marchés en bas ? Je plaisante, mais comment est-ce que vous y prenez ?
Non, alors nous on a choisi la facilité, on ne transforme pas nous-mêmes notre lait, parce que j'ai une grande admiration pour beaucoup de gens qui transforment eux-mêmes leurs produits, qui créent leurs produits à la maison et qui le vendent. Je les salue au passage parce que je trouve que c'est vraiment des gens courageux. et qui ont souvent des grandes convictions, surtout par exemple dans les Cévennes où les voilà les terres sont accidentées, etc. Voilà, c'est des gens qui ont beaucoup de courage. Nous, on a choisi plutôt la facilité. Quand on est arrivé, l'éleveur à qui on a repris la ferme livrait son lait à Roquefort, donc à Société des Caves. Et nous, c'est ce qu'on a fait aussi pendant quelques années. Et puis ensuite, il y a eu des grands changements au niveau du paiement du lait. Et puis, on s'est rendu compte aussi que, quelque part, on vendait notre lait à une grande société qui faisait travailler beaucoup de machines et peu de gens. Et donc, au bout d'un moment, on a fini par prendre la décision de livrer notre lait à une petite fromagerie qui se situe sur le COS, qui emploie entre 15 et 20 personnes, alors que finalement, elle ne travaille le lait que de 8 à 10 éleveurs. Donc, c'est aussi important pour nous de faire travailler des gens et pas des machines.
Claude Gras, Sylvain et Théophile Navecte, dans le jargon, c'est des néo... Oula. Sylvain, j'espère que personne n'est mort. Claude Gras, Sylvain et Théophile Navecte, c'est les aléas du direct, pardon, auprès des auditeurs. C'est donc, comme on dit dans le jargon, des néo-ruraux. Théophile est allé donc avec votre évêque à l'occasion de l'assemblée plénière sur le thème de l'encyclique Laudato Si. Il a fait partie du voyage comme un peu comme un témoin. Qu'est-ce que vous pourriez dire d'eux? Vous trouvez que pour vous c'est un visage de la génération Laudato Si d'une certaine manière?
Il reflète tout à fait cette image-là, à mon avis. Alors souvent, je les prends comme un peu un couple modèle, dans le sens où, alors, il y a toujours l'écologie qui vient dans leur façon de vivre aussi. Hein. Simplement, je crois que effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne dépendent pas de grands groupes. Pour faire travailler leur ferme. Et ça, je crois que c'est important pour nous aussi, hein, de voir que finalement l'écologie peut être associée à la foi, puisque ce sont des personnes, on l'a exprimé, hein, que des grandes personnes de foi, une grande famille de foi, qui a toujours du temps pour l'Église et pour les autres, et puis qui savent partager aussi leur richesse, leur amitié, une fraternité formidable. Ils ont toujours du temps, vous voyez, c'est pas toujours pressé, mais ils ont toujours du temps pour les autres, pour l'Église. Et ça, vraiment, pour moi, c'est un cadeau. Hein. Les familles comme ça devraient en avoir beaucoup plus. Mais il y en a sur le poste, bien
Alors,
sûr.
Il y en a au moins une, c'est déjà beaucoup. Sylvain Navecte, comment est-ce que vous prenez, non pas ces compliments, mais si on vous dit vous êtes génération Laudato Si, vous êtes un visage de quelque part de ce à quoi le pape nous appelle. Est-ce que ça résonne chez vous? Qu'est-ce que vous comprenez quelque part de cette aventure que le pape nous invite à vivre?
Je pense que là où l'appel du pape est très intéressant, c'est dans son invitation à tenir compte des choses dans leur globalité et non pas à cloisonner. On est dans une société où on cloisonne toujours beaucoup. Je pense que nous, quelque part, on correspond à l'idée de Laudato Si parce que notre vie n'est pas cloisonnée. On n'a pas d'un côté la ferme, de l'autre côté la famille, et de l'autre côté la foi, et de l'autre côté notre développement personnel. On peut dire que tout est vraiment intimement mêlé. Et
vous reconnaissez aussi dans cette sobriété heureuse à laquelle le pape François appelle, en reprenant les mots de Pierre Rabhi, ça résonne chez vous?
Oui, c'est sûr que c'est ce vers quoi on tend. Après, il faut quand même dire que matériellement, on a beaucoup plus de choses que beaucoup d'autres. Mais disons qu'on essaie d'en faire un bon usage, et surtout on essaie de se rendre compte que notre bonheur ne dépend pas de notre confort matériel. Bien sûr que ça y aide, mais c'est pas ce qu'on recherche en priorité.
Pour finir, vous vouliez nous dire un petit mot sur le confinement, parce que, aussi étrange que ça puisse paraître, sur ce haut plateau, ce désert qu'on a parcouru, on va dire de manière touristique et religieuse, et puis on a essayé de faire connaissance avec vous. Sur ce plateau, il n'y a pas grand monde, je disais, c'est environ un habitant au kilomètre carré, et pourtant, l'écologie, vous vouliez insister là-dessus, c'est aussi et avant tout peut-être cultiver justement le lien, cette fraternité, pour faire écho à l'encyclique du pape François qui va sortir incessamment sous peu. Quelle est votre histoire un peu sur... qu'est-ce que vous vouliez nous dire à propos du confinement et de votre découverte?
Alors, avant de parler du confinement et de quelque part cette découverte que j'ai faite, je peux vous dire que même si ici il y a peu de gens, en fait, alors il y a quelques personnes qui viennent sur le COS pour effectivement être seules. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui viennent sur le COS et qui découvrent quelque part une vie sociale extrêmement riche. On peut dire que certes, on n'est pas beaucoup, mais vraiment, on a une vie sociale extrêmement riche. On se retrouve très souvent, on se connaît. On est un peu comme une grande famille où on a été très très bien accueillis en arrivant ici. Quand on a besoin d'un service, il y a toujours quelqu'un pour nous aider. Et ça c'est vraiment important, et on peut dire que c'est une caractéristique. Et puis c'est aussi intéressant de voir que comme on est éloigné d'à peu près tous les grands centres d'intérêt commerciaux, où on est éloigné des villes, il n'y a pas de village dortoir, ce qui veut dire que chaque village a vraiment une vie sociale qui lui est propre et qui ne dépend pas de la ville d'à côté. C'est-à-dire que on s'organise aussi nos distractions, nous-mêmes. Dans le village d'à côté, par exemple, tous les jeudis soirs, ils se retrouvent pour jouer à un jeu de société qui s'appelle le Mahjong. Moi, je trouve ça vraiment chouette. Et puis, il n'y a pas besoin forcément d'aller à la ville pour avoir une distraction.
Alors, pour finir, après, votre histoire sur le confinement?
Alors, par rapport au confinement, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est de constater à quel point vraiment on a besoin des relations sociales et de voir à quel point notre vie est triste sans toutes les activités qu'on peut avoir habituellement.
Voilà, presque leçon de choses et de philosophie grâce à ce cause, en tout cas à ce que vous vivez, et puis on va dire mis en lumière particulièrement à l'occasion de ce temps de confinement. Merci de nous avoir proposé cette balade. On entendait presque que vous étiez dans vos fermes, on entendait presque le silence de ce plateau. Un grand merci à vous, ce beau lieu à découvrir, le Cosmejean en Lozère, plateau entre terre et ciel. Un grand merci à vous. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.